Je lance l'enregistrement. Donc notre troisième séance de séminaire aujourd'hui, donc le jeudi 4 février, donc sur la phénoménologie de l'apprentissage profond. Donc on va d'abord évoquer simplement un petit temps de départ pour parler donc à nouveau de la validation du séminaire. Donc vous avez la liste des sujets que j'ai proposés, j'ai un petit peu détaillé la dernière fois. Donc ceux et celles qui n'étaient pas là la dernière fois, il suffit que vous réécoutiez l'audio, justement. Vous allez retrouver tous les sujets, c'est facile. Donc j'ai déjà reçu quelques propositions de certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous. Donc je les récapitule rapidement histoire voilà, qu'on soit un petit peu tous à jour. Donc mon Paco m'avait proposé de travailler sur Bernard Stiegler, enfin en tout cas il voulait travailler sur les enjeux politiques de l'intelligence artificielle et du deep learning en ce moment en particulier, enfin du numérique. Le philosophe Bernard Stiegler, qui est décédé récemment, a beaucoup écrit sur ce sujet avec un regard critique, donc je pense que c'est une bonne entrée. J'ai proposé à Elliot, qui voulait aussi travailler sur ce sujet, de plutôt se centrer sur un autre auteur, mais de façon très proche, enfin en tout cas dans une version un petit peu différente mais vraiment intéressante, c'est Yves Citon, C-I-T-O-N, donc qui est vraiment un auteur contemporain, enfin vivant, plus jeune que Bernard Stiegler, qui est en pleine activité. Et je pense que c'est intéressant de prendre connaissance de son travail et de sa vision. Ensuite, Nicole m'a proposé deux sujets possibles, donc elle est encore en train de réfléchir. Soit se centrer sur Hubert Dreyfus et sa critique de l'intelligence artificielle, donc dans les années 70 à 90, soit se centrer sur Husserl et son rapport aux mathématiques et aux sciences plus largement. Donc là, c'est plus en amont. Mais bon, vous voyez, les deux sont possibles. Hein. Enfin, bon, je pense que le premier sujet est plus directement dans l'interaction, le corps de notre interaction. Mais voilà, si la phénoménologie vous paraît un terrain plus sûr parce que vous l'avez déjà travaillé, que vous ne voulez pas vous aventurer sur quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, voilà, moi je vous offre toutes sortes de possibilités, hein, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avions donc Cinzia qui avait évoqué de parler, de présenter le texte de Dominique Cardon, la revanche des neurones, mais en fait, bon, c'était un peu trop compliqué. Je comprends. De toute façon, je vais en parler aujourd'hui, du coup. Et donc, vous aviez une idée, Cinzia, de travailler sur un film, peut-être, qui met en scène le travail initial de Turing et du test de Turing, enfin de la machine de Turing, qui est évidemment une des sources et de réflexion de mise en place de l'intelligence artificielle. Donc pourquoi pas, il faut que vous précisiez par contre ce que vous voulez faire, hein, c'est possible, ou alors en versant plutôt lié à la phénoménologie et aux sciences, je crois que vous aviez aussi ça en tête peut-être. Voilà, il me semble que c'est tout ce que j'ai eu comme retour pour l'instant, à moins que j'ai oublié quelqu'un. Prenez le temps, mais réfléchissez assez vite quand même. C'est un peu contradictoire comme injonction. Donc Loïc, vous m'aviez dit que vous vouliez faire une explication de votre côté. Donc bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc je salue Gurkhan qui est arrivé entre-temps. Et Erinch aussi, bonjour Erinch, qui est aussi là avec nous. Voilà, donc c'est ça. Alors, l'explication, donc Lauriane, vous faites bien de dire, puisque vous êtes aussi en MasterMef, donc ça vous est aussi accessible et ouvert. Alors, justement, en parlant de ça, donc continuez à réfléchir, mais ne tardez pas. À me faire des propositions pour qu'on puisse interagir et qu'on puisse mettre ça en place tranquillement. On a le temps, mais c'est mieux, plutôt on le fait, mieux c'est. Ça vous laisse plus de temps pour travailler tranquillement. Donc l'explication de texte, ce à quoi j'ai pensé, ce que je vais vous proposer, c'est un extrait justement du texte de Hubert Dreyfus. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour vous d'un point de vue philosophique. C'est pas un ouvrage très récent, Mais en même temps, c'est un ouvrage fondateur et c'est un moment, comme on l'a déjà noté, mais on va y revenir, un moment charnière où la philosophie entre en scène de façon frontale par rapport à l'intelligence artificielle et développe une critique. Donc le regard de Hubert Dreyfus, il est critique, frontalement critique. D'une certaine manière, c'est le discours initial qui sera ensuite réassumé d'une autre façon par Bernard Stiegler, mais avec un contexte différent historiquement. Donc il y a évidemment un lien entre les deux auteurs. Donc le discours de Hubert Dreyfus, c'est vraiment un discours intéressant à prendre au sérieux, avec les limites aussi qui sont les limites d'une critique trop radicale. Mais je pense que c'est intéressant d'un point de vue philosophique et phénoménologique aussi, puisque l'ancrage de Dreyfus, c'est la pensée de Heidegger. Donc je pense que c'est plus intéressant d'utiliser un texte de Hubert Dreyfus comme explication de texte pour ce séminaire que l'autre auteur qui est aussi central dans cette émergence philosophique de la philosophie dans le débat avec les sciences cognitives, qui est la figure de Francisco Varela, à laquelle on a déjà fait droit grâce à Benjamin, Arnaud, sur lequel on reviendra, mais qui lui n'a pas un discours critique en fait, il a plutôt un discours d'intégration, donc de prise en considération et de travail avec. Vous voyez, c'est deux postures complémentaires mais différentes. Et en fait, c'est plus intéressant pour vous, je pense, de travailler sur Hubert Dreyfus dans un premier temps, puisque c'est un philosophe, alors que Varela est d'abord un scientifique qui s'est beaucoup intéressé à la philosophie, comme je vous l'avais déjà indiqué. Ah, d'accord. Oui, alors je vous ai envoyé, par contre, le deuxième, Zacharia, j'ai envoyé, je ne l'ai pas mis sur le site, la deuxième partie, mais par contre, vous l'ai envoyé à tous. Si vous n'avez pas reçu cette deuxième, parce que je me suis dit que l'envoi des su enfin le détail des sujets, oui, vous avez raison, c'est un peu une erreur de ma part. Je la mettrai sur le site, mais en tout cas, vous l'avez reçu normalement. Je vous l'ai envoyé et ensuite je ne l'ai pas mis sur le site, effectivement. Mais peut-être je vais le mettre quand même sur le site en mettant une rubrique particulière, sujet de validation, quelque chose comme ça. Enfin, je vais le faire, effectivement, vous avez raison. J'ai préféré vous l'envoyer à vous seulement et pas mettre sur le site. Alors, donc, le sujet, l'explication de texte, pour revenir à cela, donc c'est un extrait du premier texte de Hubert Dreyfus de 1972, initialement, ça a été réédité un certain nombre de fois, qui s'intitule donc en anglais « What computers can't do », ce que les ordinateurs ne peuvent pas faire. Donc c'est le premier texte. Ensuite, comme vous savez, Hubert Dreyfus en a écrit un deuxième 20 ans plus tard, en 92, qui s'intitule What Computers Still Can't Do, ne peuvent toujours pas faire. Donc une sorte de critique renouvelée 20 ans plus tard. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qu'on va un peu examiner à un moment donné, la semaine prochaine sans doute, son évolution. Mais nous, on va se centrer déjà sur le premier texte, parce qu'on va commencer par le début. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que j'étais persuadée que les textes de Hubert Dreyfus étaient traduits en français, parce qu'en fait, moi, je les ai en anglais, j'ai pas fait attention. Et en réalité, le seul ouvrage, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, qui est traduit de Hubert Dreyfus, c'est un ouvrage qui a été publié en 84 en français et qui s'intitule Intelligence artificielle, mythes et limites, au pluriel. Ça a été publié chez Flammarion. Je vais vous envoyer les références dans un instant avec un extrait de texte. Donc il me semble, mais bon, vous me confirmerez, j'ai fait mes petites recherches hier, j'ai pas et j'ai même contacté une librairie pour vérifier, apparemment qu'il n'y a pas d'autres textes de Dreyfus qui soient disponibles en français. Donc les deux ouvrages en anglais que j'ai mentionnés pour commencer ne sont pas publiés. Alors, est-ce que, j'ai pas vérifié, est-ce que le texte de 84 correspond à la traduction de What Computers Can't Do, qui date de 72? Ce serait à vérifier, mais du coup, je l'ai pas. Oui, il est indisponible. Même ce texte français est indisponible. Donc, c'est difficile de savoir. J'ai vraiment pas pu vérifier ce qui est le texte original, ce qui est la traduction, etc. Donc, du coup. Ouais, c'est un peu ce que j'imaginais, que c'était le texte 72. Bon, donc, mais bon, alors, il faudrait vérifier si ce texte est disponible en bibliothèque, parce que là, moi, je ne l'ai pas. J'ai que les textes anglais, encore une fois. Voilà, comment vous pouvez y accéder. Mais bon, indépendamment de ça, si c'est difficile à trouver, pour pouvoir faire l'explication de texte que je voulais vous proposer, on peut. Alors, il y a deux possibilités. Soit on trouve le texte, vous trouvez le texte en bibliothèque, donc le texte qui s'intitule Intelligence artificielle, mythes et limites, donc ce texte de 64. Oui, donc c'est bien ce que je pensais, il n'est pas à l'ABU de Rouen. Il pourrait être à l'UFR des sciences, à vérifier. Bibliothèque de l'UFR des sciences. Bon, faut faire peut-être une petite recherche. Donc, c'est pas de l'anglais très difficile, Gary, effectivement. Mais j'ai trouvé une petite solution que je vais vous soumettre et à laquelle on va recourir d'ailleurs peut-être aujourd'hui déjà, si on arrive à faire tout ça. C'est de prendre le texte anglais. Il est par ailleurs disponible sur Internet. Vous avez donc, si vous tapez le texte donc, de Dreyfus, What Computers Can Do, et vous allez sur l'onglet Full Text of What Computers Can Do, Internet Archives, Archives Internet, eh bien vous tombez sur le texte. Alors il n'est pas dans un format très agréable, enfin il est un peu, le texte est un peu, il apparaît pas de manière très, c'est pas très beau quoi, mais en fait vous avez le texte brut, avec la table des matières, etc. Et donc l'extrait auquel j'ai pensé pour vous permettre de travailler, de valider le séminaire, c'est un extrait qui se trouve donc dans le texte anglais et dans la version internet. Il est un peu long, aux pages 162 à 166. Ça se situe dans la troisième partie de l'ouvrage qui s'intitule Alternatives to the Traditional Assumptions, donc des alternatives par rapport aux hypothèses traditionnelles. Et ça se situe dans cette troisième partie, donc dans un chapitre qui est le chapitre 7, qui s'intitule The Role of the Body in Intelligence Behavior. Donc, je vous le mets en anglais ici, The Role of the Body in Intelligent Behavior. Voilà, c'est le chapitre 7 de la troisième partie de What Computers Can Do. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Gary, vous êtes très efficace. Bravo. Donc l'extrait à commenter commence, enfin ce que je vous propose, hein, ça commence à to conclude. Donc on arrive à un moment donc de ressaisissement de l'analyse de Hubert Dreyfus, donc c'est assez cohérent. To conclude, ensuite, et il commence comme ça, pattern recognition, donc la reconnaissance des patterns, des schémas, des schèmes. Ça commence comme ça, hein, ça c'est le début. Et ça va jusqu'à la page 166 et qui correspond à la fin du chapitre. Donc voilà, c'est ça que je vous propose. Alors c'est en anglais. Si vous avez le texte en français, c'est évidemment ce serait parfait, Nicole. Mais le scanner en entier, c'est long. C'est un gros travail. Je ne sais pas si je peux me permettre de vous demander ça. Vous l'avez donc le texte français. Donc intelligence artificielle. Ah, de passage. Oui, le passage. D'accord. Ah, oui, il vient de Caen. D'accord. Ok, très bien. Oui, bah alors volontiers, si vous voulez me scanner l'extrait en français correspondant, ce sera très bien. Ça évitera, parce que moi bon, je voulais vous proposer autre chose, parce qu'en fait, on peut faire une traduction française, une Google Trad, hein, qui s'active automatiquement d'ailleurs sur le site, hein, sur le Internet Archives. Donc en fait, je voulais vous proposer de faire ça, et d'ailleurs je l'ai fait pour un extrait qu'on va regarder ensemble, de façon à ce que vous ayez le texte français parallèlement. Et c'est aussi intéressant même pour notre propre sujet, vous allez voir. Qu'est-ce que ça signifie qu'une traduction automatique? Parce qu'en fait, ça correspond exactement, la traduction automatisée, qui est proposée d'ailleurs sur ce site, et que vous pouvez, à laquelle on peut recourir de plus en plus maintenant, hein, avec Google Trad, on peut vraiment faire des. On mouline les textes d'une langue à l'autre. Alors oui, c'est bien d'avoir le texte original aussi, hein, donc de toute façon, parce que c'est vrai que ça permet de vérifier. Et je pense que si vous faites une explication de texte, si vous choisissez l'explication de texte, il faut que vous ayez les deux. Vraiment, je souhaite que vous fassiez un travail d'interaction entre l'anglais et le français. Bon, toujours est-il qu'en fait, si on mouline le texte anglais dans le français avec Google Trad, et donc c'est proposé sur ce site, on obtient un texte français qui est une sorte de matériau de travail de départ. Il faut revérifier sans cesse l'anglais parce qu'il y a des endroits où ça a sauté, comme vous savez. Mais c'est un exemple intéressant de traduction automatisée et à la fois de la potentialité que ça donne d'avoir d'emblée un texte dans une autre langue alors qu'on ne saurait pas le lire soi-même dans la langue originale, et en même temps des défauts, des limites hein, de cette traduction automatisée, non seulement parce qu'il y a des ratages, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été prises en considération par la machine, justement, on est en plein dans notre sujet, mais aussi parce qu'il y a des choix de traduction qui peuvent être complètement erronés et donc à revoir. Donc l'humain passe derrière nécessairement. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout conclut jusqu'au chapitre 8. Jusqu'à la fin du chapitre 7. Quoi. Donc voyez en fait l'intérêt. On va avoir une mise en pratique tout à l'heure, parce qu'on va regarder ce que ça donne justement une traduction automatisée. Donc quelle est la potentialité du deep learning qui permet ce genre de choses, hein, parce que ça, c'est cette machine-là, cette machine prédictive qui est mise en route pour toutes les traductions automatisées maintenant, et ce que ça produit comme effet, à la fois le potentiel et évidemment les limites, et le fait que l'humain doit toujours repasser derrière, parce qu'autrement on a un résultat qui évidemment reste très insatisfaisant, mais qui en même temps offre des tas de potentialités. Donc vous voyez, je trouvais que c'était intéressant, en partant de cet exemple, de nous resituer au cœur de notre sujet. Donc voilà ce que je vous propose. Oui, tout à fait, on m'en a parlé, Gürkan, vous avez tout à fait raison. Oui, le type A, j'ai été regardée, effectivement, un ami m'en a parlé également, absolument. Voilà, donc on est vraiment dans cet espace-là. Hein. Alors c'est vrai que quand on travaille à la croisée des langues, évidemment, on est directement concerné. Et c'est bien de s'adapter, c'est bien de prendre en considération ces outils, tout en sachant que, en tant qu'être humain, on va toujours être aux commandes, en réalité, de la... De la révision et de la justesse, hein, forcément. Donc ça, c'est pour le contrôle de votre validation pour en MasterMef, pour ceux qui le souhaitent, ceux et celles qui le souhaitent. Bien sûr, quand vous êtes en MasterMef, ce n'est pas non plus une obligation. Si vous préférez faire un mini-mémoire, c'est bien aussi. Si vous êtes sur les deux masters en même temps, vous choisissez. Par contre, si vous n'êtes qu'en master recherche, donc je vous demande de faire un travail plutôt de recherche. Hein, donc l'explication de texte, normalement, n'est pas pour vous. Et donc, j'avais une autre proposition aussi en termes de présentation orale. Vous voyez, je les égrène un petit peu, les possibilités comme ça au fur et à mesure, qui serait de présenter un livre. Qui est justement un livre dont on va un peu reparler là aujourd'hui et la semaine prochaine, qui est le livre de Francisco Varela, justement, qui s'intitule « L'invitation aux sciences cognitives ». L'invitation aux sciences cognitives. Donc c'est un petit livre, donc il date de 1997. Il fait 122 pages pour vous donner envie. Donc c'est pas un gros livre. C'est paru au Seuil, collection Point. Et c'est un livre qui se veut une présentation assez pédagogique, en fait, de toute l'histoire, en fait, des différentes étapes de la constitution des sciences cognitives. Donc, fait par un neurobiologiste, donc avec, évidemment, un point de vue dont on a déjà un peu parlé, qui est le point de vue... connexionniste, c'est-à-dire le point de vue qui met au premier plan la biologie, hein, qui est bio-inspirée d'une certaine façon, selon la formule de Dominique Cardon d'ailleurs dans son article, hein, il parle d'un point de vue bio-inspiré, je trouve que c'est intéressant comme expression, c'est-à-dire un point de vue qui prend comme modèle finalement l'être vivant, l'organisme vivant, et en particulier les réseaux de neurones, et qui travaille avec ce modèle de départ, hein, et qui par ailleurs décline justement les différentes façons dont les sciences cognitives se sont déployées jusqu'à un paradigme que Varela met en avant de manière singulière, qui est celui de l'énaction, c'est-à-dire en fait de la mise en pratique, donc d'une opposition au primat des représentations. Et évidemment, c'est très directement connecté pour nous à ce qui se passe aujourd'hui avec le deep learning, du fait de la prise de position connexionniste et de ce que de l'énaction, donc qui renforce la dimension pratique et la dimension donc de mise en jeu de du vivant et du vécu. Donc voilà, donc c'est une proposition si vous voulez faire une présentation orale à un moment ou à un autre. Donc ça pourrait être dans 15 jours par exemple, je pense que ce serait assez cohérent, ou dans 3 semaines, donc lors de la dernière séance, voilà, pour vous laisser un peu de temps et pour vous permettre de valider oralement si vous le préférez. Alors oui, Baudrillard, c'est un peu loin quand même, hein. C'est un peu loin. On est vraiment dans un travail plutôt de sociologie. Ça va être un peu... Non, je préfère qu'on s'en tienne. Il y a déjà beaucoup de choses possibles, hein, donc voilà, j'aimerais autant que vous soyez quand même dans les cadres du séminaire. Je suis ouverte à d'autres propositions que ce que je vous indique, mais il faut quand même que ce soit vraiment sur le terrain. La durée de la présentation, il y sera pas plus de 20 minutes, de façon à ce qu'on ait le temps de discuter et qu'on puisse faire d'autres choses pendant la séance aussi. Hein, pas plus de 20 minutes. Donc les 20 minutes, ça veut dire à peu près en termes de format de page, je dirais 5 pages, 5-6 pages maximum, hein, de texte que vous pouvez lire. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez préparer à l'écrit et lire tranquillement. Donc voilà, tenez-moi au courant pour cela. Et puis, encore une fois, réfléchissez. prenez le temps de, de réfléchir à ce que vous voulez faire en termes de validation. Alors, donc, après cela, j'en viens maintenant, on a pris un peu plus de temps que prévu, c'est pas grave. donc, j'en viens maintenant à ce que je voudrais vous proposer pour aujourd'hui. oui, donc, en fait, Nicole, vous pouvez nous l'envoyer, vous pouvez soit l'envoyer à toute la liste, vous scannez, ah, très bien, le chapitre 7 dans son entier, c'est parfait. Et vous pouvez l'envoyer. Alors, la difficulté, c'est que si vous l'envoyez sur la liste que j'ai que j'utilise avec tous les la liste master, ça va arriver à tout le monde, y compris aux étudiants qui suivent pas mon séminaire. C'est pas très grave, il n'y a pas d'enjeu. Donc, ça pose pas de problème. Hein, vous pouvez vraiment faire un envoi à toute la liste, hein, ou vous me l'envoyez à moi et je redistribue. Voilà, comme vous voulez. Hein, mais je le ferai rapidement de toute façon. D'accord ? On fait comme ça. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous proposer. Donc, la semaine dernière, on s'est finalement centré sur une première étape qui était la mise en place du scénario de la relation de la phénoménologie historique, comme je l'ai nommé, avec les sciences et la science. Et donc, j'ai pris un peu de temps pour décliner un peu en amont de notre sujet, mais ça nous concerne directement, les différentes postures des phénoménologues donc principaux qui sont en jeu dans ce séminaire, à savoir Husserl, Heidegger et Merleau-Ponty, et leur relation singulière, spécifique à chacun avec la science et les sciences. Donc un peu pour planter le décor, pour montrer comment la phénoménologie peut être impliquée et a été impliquée dans toute cette histoire de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives. Donc évidemment, j'ai voulu commencer par cela, parce que c'est le sujet de notre séminaire, hein, et la signature particulière de ce séminaire, c'est bien sûr de montrer le rôle, l'importance et l'implication de la phénoménologie dans cette histoire. Donc c'est ça la signature singulière du séminaire. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé par là, de façon à vraiment planter le cadre et pouvoir faire réintervenir ensuite la phénoménologie à intervalles réguliers pour montrer comment elle a contribué, comment elle a renouvelé, comment elle a été elle-même modifiée par ce débat avec les sciences, et en l'occurrence les sciences cognitives, et en plus particulièrement encore l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, juste pour ressaisir un peu le cadre, et puis ensuite, la dernière fois, j'ai juste décliné les différentes étapes de ce que l'on va faire ensemble dans ces séances. Donc aujourd'hui, en fait, je voudrais aborder ce que j'ai appelé la deuxième étape du séminaire, hein, à savoir donc la mise en place du paradigme de l'intelligence artificielle en tant que telle, dans le contexte historique dans laquelle elle est née, et comment elle s'est déployée à travers l'histoire. Donc c'est un programme un peu large, hein. Donc j'aborde, si vous voulez, l'autre versant, l'autre côté, non plus la phénoménologie, mais cette fois l'intelligence artificielle en tant que telle, à travers donc une émergence qui a mis en jeu donc tout un ensemble de disciplines. On en avait déjà un tout petit peu parlé à travers les conférences Macy, hein, que je vous recommande d'aller regarder sur Internet un peu plus en détail. Et pour faire cela, comme on doit travailler de façon très synthétique parce qu'on a des séances relativement courtes et qu'on a peu de séances, évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail de tous les aléas, les atermoiements et les renversements de cette histoire qui est assez complexe et un peu baroque parfois, l'histoire hein, de l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, je vais être obligée de faire un travail un peu de synthèse et de prise de, voilà, de vision d'ensemble. Mais en même temps, je voudrais vous donner des éléments précis. Et en fait, du coup, pour faire cela, je vais vous proposer comment dire, deux supports qu'on va travailler en parallèle, enfin l'un après l'autre aujourd'hui, mais qu'il va falloir croiser, qui chacun raconte une histoire. Raconte l'histoire, justement, de l'intelligence artificielle. Donc on va rentrer dans un mode un peu de récit, hein, un peu à la manière dont Paul Ricoeur, le phénoménologue français Paul Ricoeur, parle du récit dans son grand livre, ses trois volumes Temps et récit, dans les années 60, 70, 80, donc qui propose une compréhension de la narration. Hein, et la narration, pour Ricoeur, la narration ou la narrativité, c'est une interprétation. Hein, c'est-à-dire, c'est évidemment, quand on raconte une histoire, quelqu'un raconte une histoire et la même personne va raconter une autre histoire sur le même sujet. Non pas que ces deux histoires soient totalement différentes, voire opposées, elles peuvent l'être parfois. Il y a bien sûr des points communs, il y a des faits communs, il y a évidemment du factuel, enfin, qui est objectif. Mais évidemment, quand on raconte une histoire, eh bien, on inclut d'emblée dans l'histoire la subjectivité et donc une dimension d'interprétation, quelque chose qui va introduire de la variation et qui va définir le positionnement, la position de la personne qui raconte. La singularité de la position de la personne qui raconte. C'est ça aussi qui fait l'intérêt d'une histoire, hein, racontée par quelqu'un. C'est pas, voilà, c'est pas une machine qui raconte, en l'occurrence. Et donc, du coup, j'ai trouvé intéressant de mettre en perspective deux histoires. Et en fait, en réalité, ce que vous allez voir, c'est que nous, ce qu'on fait dans ce séminaire, ça va aussi être de raconter une histoire. C'est-à-dire que moi aussi, je vous raconte une histoire. Et l'histoire que moi, je vous raconte, eh bien, elle inclut la phénoménologie. C'est pour ça qu'on l'a mise en place au départ, la phénoménologie, et qu'on va y revenir régulièrement. Donc moi, je vous raconte une autre histoire encore que celle que je vais utiliser aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors, du coup, on va avoir trois scénarios, si vous voulez. Trois histoires différentes. Et on va les mettre en relation et on va essayer de comprendre justement comment elles sont orchestrées l'une par rapport à l'autre. Elles apportent chacune des choses et elles font l'impasse parfois sur un certain nombre de choses aussi. Donc c'est intéressant d'en avoir plusieurs, parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir objectiver d'une certaine façon ce paradigme et cette compréhension, et ne pas se fier à une seule histoire comme si c'était la vérité absolue. Donc en fait, en ayant une pluralité d'histoires, en l'occurrence trois, vous allez voir, je vais vous dire quelles sont les deux autres, eh bien ces trois histoires, elles vont faire émerger quelque chose qui relève où Searle, le fondateur de la phénoménologie, parle beaucoup d'intersubjectivité, donc d'une pluralité de sujets, d'une structure communautaire. Et en fait, à travers la pluralité des sujets, l'intersubjectivité, eh bien, on croise les fils des subjectivités et on crée une objectivité. Et vous voyez, c'est une objectivité qui est construite sur la base des subjectivités, donc qui inclut les subjectivités de l'intérieur, et qui n'est pas une objectivité, soi-disant, hors sol, neutre, externe, indépendante des sujets, comme souvent le modèle dominant en science veut nous le faire croire. Donc voyez, là, on entre dans un type de relation à la vérité qui est instruite par les différentes perspectives subjectives. Chez Husserl, on a cette thèse qui est un peu tardive dans son évolution, autour des années 20, qui nous dit qu'en fait, le fondement de l'objectivité, justement, pour Husserl, c'est l'intersubjectivité. L'intersubjectivité est le fondement de l'objectivité. Ça, c'est une thèse très très forte de Husserl qu'on trouve dans les années 20. Et au fond, moi, je m'inscris vraiment dans ce cadre-là, de façon méta, ici, vous voyez, en vous proposant ces différentes histoires. Alors, quelles sont ces différentes histoires? Quels sont ces récits? Donc, j'ai choisi, en fait, de reprendre le fil de l'histoire que nous raconte Dominique Cardon, hein, donc dans son article, dont je vous ai remis la référence dans le mail que je vous ai envoyé hier, et qui décidément me semble être un auteur vraiment décisif pour, en tout cas, entrer dans la compréhension de cette histoire avec son point de vue. Hein, donc un article récent, je vous remets la référence, Dominique Cardon et al., La revanche des neurones, 2018. Donc on va parcourir un certain nombre d'étapes de cet article. C'est un article très long, et donc évidemment, on ne va pas l'examiner par le menu, enfin, ça nous prendrait des heures. C'est un article qui fait plus de 40 pages. Et il se lit plutôt bien. Je suis d'accord qu'il n'est pas forcément très facile, parce qu'il y a, voilà, il faut connaître un certain vocabulaire. Mais en fait, c'est quand même un article qui a été écrit par des sociologues. Et donc, ils ont une perspective, Dominique Cardon et ses collègues, ont une perspective quand même aussi un peu située, justement. Ils font de l'histoire, ils mettent en situation les acteurs. Donc c'est pas un travail complètement désincarné. Mais en même temps, il y a un certain nombre de noyaux conceptuels intéressants à retenir dans cet article qui vont nous donner une sorte de cadrage. Donc ça, c'est une histoire qui me semble intéressante à raconter et qu'on va reprendre un peu à notre compte. Et puis, je vais aussi vous proposer, alors sur un plan qui est très différent, l'article de Dominique Cardon, c'est un travail scientifique universitaire, hein, donc qui a une construction, qui a une thèse, qui a des hypothèses, hein, donc qui a une interprétation. Donc on est vraiment dans ce régime de récit interprétatif. Et je vais aussi vous proposer, donc en comparaison, en contraste, de parcourir, alors à gros traits, il faudra aussi que vous alliez regarder d'autres côtés, peut-être vous l'avez déjà regardé, de regarder donc sur Wikipédia la page qui est consacrée à l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc la page Wikipédia qui s'intitule « Intelligence artificielle, histoire de l'intelligence artificielle ». Alors la page est assez, c'est une grosse page, hein, elle est assez touffue, il y a énormément de choses. Elle a à la fois l'intérêt et l'inconvénient des pages Wikipédia, c'est-à-dire que c'est un travail qui réunit beaucoup d'informations. Il y a une grosse bibliographie, c'est toujours intéressant, parce qu'on a beaucoup de références. Et en même temps, c'est un travail un peu brut, hein, c'est une juxtaposition de matériaux. Ça essaye de s'organiser un peu quand même, donc ça prend le fil de l'histoire malgré tout, hein. Mais bon, c'est fait de manière très juxtaposée, et évidemment, on peut avoir l'impression que c'est des matériaux bruts qui sont donnés comme ça à la connaissance des personnes qui lisent, mais en même temps, il y a aussi quand même derrière une interprétation. La difficulté, c'est que en fait, dans les pages Wikipédia, l'interprétation ne dit pas son nom, ça reste tacite, on a l'impression que c'est juste un matériau brut de connaissances qui sont livrées comme ça, mais en fait, il y a quand même une interprétation assez massive derrière. Et donc c'est intéressant à décrypter. Donc comme on est amené de plus en plus maintenant dans notre ère numérique à utiliser ces pages Wikipédia, elles sont elles-mêmes réajustées, retravaillées, etc., réadaptées, donc c'est un truc qui circule de manière très horizontale et c'est intéressant. En même temps, voilà, c'est un peu le sens commun, l'émergence d'un sens commun collectif. Il y a aussi des scientifiques qui s'y collent, évidemment. Et donc c'est un travail collectif, mais voilà, donc je trouve que c'est un matériau intéressant. On va voir l'intérêt et les limites aussi de cette page, et ça nous raconte une autre histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous raconte une autre histoire que celle de Dominique Cardon. Et puis enfin, la troisième histoire, mais ça c'est celle que moi je suis en train de vous raconter en ce moment à travers toutes ces séances, et bien c'est justement une phénoménologie de l'intelligence artificielle. Et en l'occurrence à travers, donc via donc le deep learning, à savoir la dernière vague de cette intelligence artificielle. Voilà, donc on va essayer de croiser les fils. Je vais essayer de vous donner ces différents éléments, et on va essayer de repérer des points communs et en même temps des différences. Donc là aujourd'hui, évidemment, on se centre sur les deux histoires, les deux premières hein, que j'ai mentionnées, puisque la troisième, en réalité, elle est là en coupe tout le temps, hein, elle est en basse continue, et elle alimente les différentes séances de notre séminaire. Donc je ne vais pas la mobiliser frontalement, puisqu'elle est impliquée finalement dans, dans ce que je vous propose comme, comme travail ici. Alors, en réalité, je vais commencer par l'histoire que nous raconte la page Wikipédia, parce que ce sera plus facile ensuite d'y insérer et de voir le lien et les différences avec l'histoire que nous raconte Dominique Cardon. Donc si vous pouvez d'ailleurs prendre parallèlement, aller chercher sur internet cette page, hein, comme ça vous l'aurez sous les yeux, et c'est plus simple aussi pour vous au niveau des références. Je vais reprendre un certain nombre d'éléments et je vais surtout commenter. Donc évidemment, je vous encourage à lire cette page, à aller vous documenter. Hein. C'est aussi une façon de, voilà, de s'informer de façon basique, mais en même temps, à la fois basique et technique. La difficulté de cette page, c'est qu'elle est à la fois très facile à lire, bien sûr, parce qu'autrement, ce ne serait pas une page Wikipédia. Et en même temps, comment dire, elle présuppose beaucoup de connaissances techniques que la plupart d'entre nous, et même moi d'ailleurs, souvent n'avons pas. Donc, d'une certaine manière, il faut faire confiance, à la limite, à ce qui est dit, et éventuellement, si on veut vraiment s'informer, il faut aller regarder beaucoup plus en détail les références qui sont données. Donc, c'est un peu un travail à double niveau, si vous voulez, et donc c'est un travail qui, en ce sens, n'est pas un travail philosophique, hein, le travail que propose cette page Wikipédia, puisqu'en réalité, elle est bourrée de présuppositions, cette page. Donc, elle est vraiment pré-philosophique. Elle ne fait pas un travail de définition, de réflexivité en permanence à chaque fois qu'elle introduit un terme ou une notion. Mais elle les présuppose. Donc ça, c'est une des difficultés des pages Wikipédia, hein, qui demandent toujours de faire un travail après. On ne peut pas du tout se satisfaire de ce qui est proposé en tant que tel. Alors, comment est-ce que cette page est construite ? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne et qu'est-ce qu'elle nous dit d'intéressant, hein, concernant l'histoire de l'intelligence artificielle ? On peut repérer plusieurs choses. Déjà, il y a un cadrage qui est proposé qui n'est pas inintéressant, et on pourrait dire oh, ils partent vraiment de très très loin, mais un cadrage qui est proposé, donc si vous regardez dans la page elle-même, hein, je l'ai téléchargé, je l'ai photocopié, durant les deux premières pages et demie, hein, en page papier, bien vous avez une sorte de préhistoire, on pourrait dire, de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est souvent des choses que vous avez peut-être déjà travaillées ou que vous connaissez. Hein. Mais c'est une mise en perspective intéressante parce qu'en fait, cette préhistoire, eh bien, elle est référée finalement à une problématique très large qui concerne la relation de l'homme à l'absolu, de l'humain à l'absolu. Il y a une autrice qui est abondamment citée dans cette page qui s'appelle Pamela McCorduck, qui a écrit un livre en 2004 qui s'intitule Machines Who Think, donc les machines qui pensent. Donc cette personne est sollicitée énormément dans cette page. Et en fait, là en l'occurrence, une citation de ce livre est reprise avec cette idée que l'intelligence artificielle commence avec, je cite, le vieux souhait de jouer à Dieu. Le vieux souhait de jouer à Dieu. Donc comment l'homme pourrait se hisser au niveau de Dieu, donc au niveau d'un non-point de vue, via la construction d'une machine intelligente qui pourrait non seulement égaler l'homme, mais devenir Dieu, quoi. Donc du coup dépasser l'homme aussi. Donc en fait elle situe l'intelligence artificielle à ce niveau-là, je trouve que c'est intéressant, c'est une vraie question philosophique, hein, métaphysique même. Donc aussi un rêve, hein, un rêve de construire une intelligence absolue, en fin de compte. Et on peut dire que l'intelligence artificielle, enfin les scientifiques qui sont à l'origine de ce courant, de cette réflexion, ils ont en fait été en permanence habités par ce rêve, par cette sorte d'utopie, de vouloir créer une créature, comme Dieu crée, en tout cas dans les mythes des différentes religions, Dieu crée l'homme à son image, et eh bien l'homme crée une machine à son image et à sa ressemblance, Et avec le risque évidemment que cette machine dépasse l'homme, de même que avec le risque que l'homme dépasse Dieu. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, mais encore faut-il croire à Dieu. Mais voyez, on est dans ce genre de débat. Alors elle situe donc cette page Wikipédia, je dis elle parce qu'en fait Pamela McCorduck est vraiment citée sans cesse dans l'article, donc elle semble être une autrice référentielle pour la page. Et donc on a cet arrière-plan métaphysique, qui est en fait la métaphysique de l'intelligence artificielle. L'utopie, finalement, d'une intelligence supérieure absolue, créée par l'homme, mais potentiellement dépassable, dépassant l'homme. Et donc les deux premières pages sont sous ce signe-là et rappellent toutes sortes de tentatives, enfin, avant même que naisse l'intelligence artificielle. Un certain nombre d'auteurs qui justement ont déjà été sur cette piste, par exemple de manière privilégiée pour nous en philosophie, Leibniz, hein, mais aussi Thomas Hobbes, donc avec l'idée du calcul, hein, penser c'est calculer, par exemple, hein, donc la recherche de la construction d'une machine qui va pouvoir justement avoir une autonomie, hein, et avoir cette intelligence autonome. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ces débuts de la page Wikipédia, on a aussi une mise en perspective justement du fait de cette dimension utopique ou mythique de l'absolu que peut emblématiser finalement une machine intelligente. Eh bien, on a aussi toute la mise en relation avec ce que la science-fiction finalement comment la science-fiction s'en est nourrie, hein, puisqu'on est dans de la science qui est de la fiction, qui est du mythe, qui est de l'utopie, et qui du coup s'en est aussi emparée en allant évidemment toujours beaucoup plus loin que ce que la science, au sens précis du terme, nous propose, mais aussi avec des précurseurs, donc, et des récits, hein, d'autres récits, des fictions, comme celle par exemple de Mary Shelley, donc avec son récit dans Frankenstein, donc la construction d'un être humain en tant que tel. Donc voilà, donc en fait, l'article part comme ça, et c'est vrai que ça peut sembler, on peut se dire, oh là là, il part vraiment de très loin, mais en réalité, ça permet de mettre en perspective finalement ce projet un peu fou, un peu insensé, et en même temps fascinant, finalement, qu'est l'intelligence artificielle. Alors, ça, c'est vraiment une caractéristique de cette histoire telle qu'elle nous est racontée par cette page. On ne la retrouvera pas dans l'article de Dominique Cardon, et je ne vais pas non plus y faire droit particulièrement dans l'histoire que moi je vous raconte. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir en perspective justement cette dimension métaphysique, utopique, qui finalement ponctue régulièrement, en réalité, quand même, toutes les vagues de l'intelligence artificielle. Et qui la confronte justement à de l'absolu. Donc ça, c'est une des caractéristiques de cette histoire dans la page Wikipédia. Ensuite, donc, il va y avoir toute une série de séquences qui sont racontées en détail, donc avec des faits qu'on retrouvera d'ailleurs aussi bien dans l'article de Cardon que dans ce que moi je vous raconte. Donc un certain nombre d'étapes qui sont passées en revue. Donc à partir de la page 3, donc je les décline rapidement, on les a déjà un petit peu évoqués, mais du coup, voilà. Là, c'est la dimension factuelle un peu de base qu'on retrouve de façon transversale. Donc première étape, la genèse, la naissance de l'intelligence artificielle autour des années entre 43 et 56. Ça, c'est une première étape, naissance de l'intelligence artificielle entre 43 et 56, avec en 56, je l'ai déjà évoqué, la conférence à Dartmouth où John McCarthy propose le terme intelligence artificielle, donc le terme est proposé à ce moment-là en 56. Autour de John McCarthy, on a aussi d'autres auteurs qui sont très importants, qui sont nommés ici, donc qui sont Marwin Minsky notamment, qui va être très important dans les décennies qui vont suivre, par exemple. Donc on a aussi dans cette première phase en 1950, donc un article décisif donc de Alan Turing, hein, qui donc nous propose donc un test et qui permet donc comment dire d'émettre une première hypothèse concernant donc l'intelligence artificielle avec l'idée donc la possibilité même de créer des machines qui seraient dotées d'une véritable intelligence. Donc possibilité de créer des machines qui seraient dotées d'une véritable intelligence. Donc là, on a un premier temps qui est restitué dans cet article autour des pages 3-4 notamment, hein, donc que je vous laisse aller regarder plus en détail. Et puis ensuite, on a un deuxième temps donc, qui est nommé l'âge d'or, qui correspond aux années 56-74. Donc vous voyez là, c'est beaucoup plus long comme temps, hein, une vingtaine d'années, où là, on va avoir une sorte de développement exponentiel en fait de ces possibilités. Avec la possibilité donc avec des programmes qui vont se développer, des ordinateurs qui vont être capables de résoudre des problèmes algébriques importants, un certain nombre de percées concernant donc la possibilité de créer des modes de communication en langage naturel, hein, de mener des conversations, la mise en place d'un premier agent conversationnel. Hein, qui est donc nommée Elisa dans ces années-là, et également donc un certain nombre de comment dire de prévisions qui sont faites à ce moment-là. On est vraiment dans un moment très optimiste, des prévisions qui sont faites avec l'idée que par exemple Marvin Minsky, hein, que j'évoquais tout à l'heure, en 1967 dit, dans une génération, le problème de la création d'une intelligence artificielle sera en grande partie résolu. Donc des formulations très optimistes, où en 1970, dans le magazine Life, le même auteur dit, dans 3 à 8 ans, nous aurons une machine avec l'intelligence générale d'un être humain ordinaire. En 1970. Donc beaucoup d'optimisme dans ce moment-là. Et cet optimisme va de pair, et ça c'est une caractéristique de cette histoire telle qu'elle est racontée ici, mais aussi de la manière dont Dominique Cardon nous raconte l'histoire, ça va de pair avec des vagues de financement, avec des vagues de prise en charge par l'État, en l'occurrence américain, mais aussi en Angleterre, parce que c'est surtout dans le domaine anglo-saxon que ça se développe énormément à ce moment-là. Finalement, le gouvernement américain, les agences donc l'agence pour les projets de recherche avancée, notamment la ARPA, l'agence ARPA, donne beaucoup, beaucoup d'argent, notamment au MIT, donc dans ce centre de recherche scientifique, qui est donc déjà très connu dans les années 60, donne beaucoup d'argent pour financer justement ces projets un peu fous. Donc vous voyez que l'argent et l'optimisme des scientifiques créent une sorte d'effet d'entraînement qui semble comment dire, offrir toutes les possibilités. Il y a une sorte de « on peut tout faire, tout est possible hein. ». Une liberté totale donc, qui est donnée aux scientifiques, et qui est fondée justement sur des ressources financières absolument énormes, des millions de dollars, des 3 millions de dollars par exemple par an qui sont donnés au MIT jusque dans les années 70. À l'époque, c'est énorme. Donc là, il y a un moment vraiment à la fois de potentialisation, d'optimisme, d'ouverture des possibilités. Et puis en fait, il va y avoir un quatrième temps. Donc, qui va arriver à partir de 1974 jusqu'en 80. Donc là, c'est un moment un peu plus court, mais où on va avoir un moment de repli et qui est longuement décrit, en fait, dans la page Wikipédia. C'est sans doute l'endroit où cette page consacre le maximum de temps et qui s'intitule « La première hibernation de l'intelligence artificielle », donc entre 1974 et 80. La première hibernation de l'intelligence artificielle, 1974-1980. Donc c'est pas long, 6 ans, vous voyez, par rapport aux 20 ans d'optimisme, c'est pas long, mais en même temps, cette histoire qui nous est racontée ici, nous est racontée de manière très très longue, avec tous les revers, finalement, qui sont associés. Des revers qui sont des revers budgétaires, donc à nouveau l'argent qui est absolument décisif dans le financement ou pas des programmes de recherche, aujourd'hui on le sait, mais c'est déjà le cas à l'époque. Et puis beaucoup de critiques. Évidemment, ces revers budgétaires, ils sont associés au fait qu'il y a une remise en cause de l'optimisme et le constat des limites des possibilités qu'on pensait au départ infinies. Donc, première hibernation, en fait, le terme hibernation, il est intéressant, il va être repris par Dominique Cardon, justement, qui va parler du premier hiver de l'intelligence artificielle. Il y en aura un deuxième. Mais donc, un hiver, c'est-à-dire, tout est gelé. Hein, littéralement, la métaphore, on peut la suivre, on gèle les financements, et du coup, la pensée s'arrête. Donc, en fait, je ne vais pas détailler de manière trop longue, justement, tout ce qui est raconté dans la page Wikipédia à propos de cette hibernation. Mais juste pour vous donner quelques éléments, donc cette hibernation, elle passe par un gel des financements qui est lui-même, qui prend acte lui-même, finalement, d'un certain nombre de problèmes qui sont montrés, en fait, par un certain nombre de chercheurs, notamment, par exemple, par Marvin Minsky, montre qu'en réalité il est impossible de mettre en place donc une machine intelligente sur la base donc du fonctionnement du cerveau. Donc le fait d'utiliser le cerveau et les réseaux de neurones comme un modèle pour construire une intelligence artificielle, donc une machine intelligente, est quelque chose qui est voué à l'échec. Hein. Donc c'est notamment un scientifique qui s'appelle Frank Rosenblatt s'est donné pour tâche de construire ce genre de machine qu'il a appelé un perceptron. Je vous note le nom, un perceptron. Tout à fait, il y a plusieurs vagues de froid. Vous avez absolument raison, Gary. Donc, j'ai mis perception. Perceptron. Donc ça, c'est le nom que Frank Rosenblatt, ce scientifique, donne donc à cette machine qui est forgée sur le modèle des réseaux de neurones. Et en fait, donc Minsky, donc Frank Rosenblatt, donc Marvin Minsky, va émettre des doutes justement sur cette modélisation. Et donc cette modélisation, en fait, elle est directement liée justement à l'option connexionniste, hein, c'est-à-dire une option qui consiste à considérer qu'en fait c'est l'organisme vivant et les réseaux de neurones qui servent de base à la construction des machines. Hein, ça, c'est vraiment l'option connexionniste. Et en fait, Marvin Minsky réagit sur la base d'une autre option, l'option alternative, qui est l'option symbolique, au contraire, donc pas connexionniste, symbolique, qui consiste à dire qu'en fait, il ne faut pas prendre appui de manière mécanique et directe et inductive sur l'organisme vivant et les réseaux de neurones pour construire des machines intelligentes. Mais en fait, il faut simplement construire un symbolisme formel qui a sa cohérence propre et qui aura plus de solidité, qui sera donc beaucoup plus rigoureux que si on part des réseaux de neurones. Donc la critique, elle est violente et elle va donc mettre un coup d'arrêt, finalement. Elle va faire passer dans l'ombre, en fait, l'option connexionniste, défendue ici par Frank Rosenblatt, et elle va mettre un coup d'arrêt finalement à tout cet optimisme et cette potentialité qui a prévalu finalement dans les 20 années précédentes. Ce qui fait que, donc fin des investissements, hein, comme le dit la page, et aussi un certain nombre de critiques qui émergent à ce moment-là, par exemple justement la critique de Hubert Dreyfus. La critique de Hubert Dreyfus qui va mettre de l'eau au moulin encore à la critique de Minsky et aussi la critique d'un autre philosophe qui s'appelle John Searle, dont vous avez peut-être entendu parler. Ces deux critiques elles sont pas centrées du tout de la même manière, puisque la critique de Dreyfus, elle conteste, alors de façon générale, hein, pas seulement l'option connexionniste, mais l'intelligence artificielle dans son ensemble, en considérant que finalement la mise en place d'une machine intelligente ne peut pas se faire sans un renvoi au corps, à la situation, au contexte. Et en fait, le constat de Dreyfus est assez radical, puisque en fait il dit en réalité aucune machine intelligente ne peut inclure le corps, ne peut inclure une dimension qui serait irréductible à une formalisation. On ne peut pas formaliser le corps, puisque le corps, c'est justement une et la situation, le contexte, ce sont des dimensions qui par essence bougent tout le temps, changent tout le temps, qui introduisent tellement de variabilité et d'imprévus que justement on ne peut pas formaliser cette imprédictibilité. Donc la critique de Dreyfus, elle est assez radicale. Celle de John Searle, elle est un peu différente, puisqu'en fait John Searle en 1980, donc c'est, on est en 1980, donc Dreyfus en est en 1972, hein, pour Dreyfus, mais John Searle en 1980 met en avant le fait que la mise en place d'une machine qui correspond à mettant en jeu une manipulation de symboles nous limite à un plan qui est le plan de la syntaxe, le plan formel, et n'inclut pas en fait la dimension sémantique, donc n'inclut pas le sens. Et donc en ce sens il dit en fait on ne peut pas considérer que cette machine elle est pensante, puisque justement elle ne produit pas du sens, elle ne produit pas de la signification, mais elle ne produit que des symboles qui sont articulés, agencés les uns avec les autres, mais qui en tant que tels restent finalement une structure syntaxique. Donc c'est un peu un autre argument, mais les deux se rejoignent finalement. Donc là on entre dans un moment qui va être un moment donc de mise de passage donc à la trappe finalement de l'intelligence artificielle, du connexionnisme, mais en fait de l'hypothèse symbolique a fortiori. Et puis ensuite, on a une remontée en puissance en fait qui réapparaît donc dans les années 80. Donc là, dans l'article, ils indiquent une cinquième étape. Donc ils appellent ça le boom 1980-1987, qui va correspondre à une renaissance en fait du connexionnisme et à la mise en évidence de ce qu'on va appeler à ce moment-là des systèmes experts, c'est-à-dire en fait des programmes qui permettent de résoudre des problèmes, qui permettent donc de se situer sur le terrain des applications, sur le terrain pratique. Et c'est la première fois en fait qu'on voit apparaître dans l'intelligence artificielle quelque chose qui met en scène, en tout cas de façon directe, de l'utilité, qui met en scène donc des applications pratiques. Et par exemple, ça va commencer à se mettre en place aussi dans les années, dans ces années-là, même un peu en amont, pour diagnostiquer des maladies, donc sur le terrain de la santé. Donc en fait, c'est ça qui va introduire un rebond et qui va aussi à nouveau déclencher des financements. Ce qui va aussi engendrer, donc avec à nouveau des financements, ce qui va aussi engendrer une remise en jeu du sens qu'on accorde à la connaissance, et on va considérer qu'en fait il faut être beaucoup plus proche du sens commun, beaucoup plus proche d'une culture générale, mettre en jeu donc une expertise, système expert, c'est-à-dire une expertise qui prend appui sur une diversité de contenus, une diversité de connaissances, mettre en scène une base de données beaucoup plus importante. Hein, donc c'est là que va commencer finalement à émerger l'idée que pour que l'intelligence artificielle puisse être vraiment productive, eh bien on a besoin d'amplifier la base de données dont on dispose. Et donc de mettre en jeu finalement de rassembler finalement l'intelligence commune, mais commune au sens de la plus partagée, mais en même temps la plus diversifiée, de façon à créer une synthèse qui soit beaucoup plus puissante et que la machine puisse engranger finalement cette synthèse. Donc là, c'est quelque chose évidemment qui va complètement changer la donne et qui va engendrer justement cette renaissance du connexionnisme, donc à nouveau donc la mise en jeu des réseaux neuronaux qui vont servir donc de ressources pour mettre en place des applications. Et c'est là qu'on voit apparaître des programmes de traduction automatisée. Le début finalement de l'interprétation des images, donc la reconnaissance visuelle. Donc c'est là qu'on voit apparaître ces premières applications qui ensuite vont évidemment être décisives dans le deep learning. La reconnaissance vocale également. Donc on est vraiment sur le terrain de l'application, voyez. Et puis, renversement, retournement de situation, à nouveau. Une hibernation, donc un second hiver, comme il est dit dans l'article, un second hiver de l'intelligence artificielle, qui là aussi est assez court, hein, vous voyez, en tout cas il le formalise autour des années 1987-1993. Et cette seconde hibernation, donc cette expression d'hiver de l'IA, il correspond à chaque fois à des coupes budgétaires, hein, et à des déceptions par rapport à des possibilités qu'on imaginait infinies et qui se trouvent en fait beaucoup plus limitées qu'on ne le croyait. Et donc cette deuxième hibernation, en fait, elle correspond en fait à un effondrement essentiellement financier. Donc finalement, le gouvernement, les différentes agences gouvernementales considèrent que l'intelligence artificielle finalement ne produit pas assez qu'elle le pourrait. Et donc ça va engendrer une prise de conscience de la part d'un certain nombre de chercheurs qui vont considérer qu'en fait il faut complètement changer le modèle de l'intelligence artificielle. Il faut avoir une nouvelle vision et il faut notamment inclure le corps. Et donc c'est là en fait, dans ces années 87-90, hein, 95, c'est là qu'on va avoir une remise en scène en fait du connexionnisme à nouveau et donc la mise en scène donc d'une pensée qui va se nommer l'embodiment, hein, donc l'incarnation, notamment avec un auteur qui s'appelle Rodney Brooks qui va défendre l'idée d'une cognition située. Mais aussi Francisco Varela, notamment dans son ouvrage The Embodied Mind. Donc là, j'ajoute une référence qui n'est pas donnée par l'article, hein, Francisco Varela. Il parle de Brooks, l'article parle de Brooks, René Brooks, mais pas de Francisco Varela. Et donc la nécessité de changer complètement de paradigme et enfin d'incarner quelque chose de mettre en scène finalement une dimension sensorimotrice possible, créer des boucles de régulation, essayer de défendre une forme d'intelligence qui doit être adaptative, qui donc doit prendre en considération le contexte dans lequel elle évolue, et pas fonctionner en vase clos par une simple manipulation de symboles. Donc le modèle du traitement symbolique de l'esprit va être considéré comme insuffisant à ce moment-là, et on va considérer que le corps est essentiel dans le raisonnement. Je cite quasiment la page ici, page 12. Donc là, on est dans une sixième et dernière étape, hein, en tout cas dans la page qui nous est proposée. Ensuite, dans ce qui suit, dans les derniers temps de cette page Wikipédia, c'est un petit peu plus confus, parce qu'en réalité, on reste sur cette dynamique-là, avec l'idée qu'un agent intelligent, eh bien, c'est un système qui doit percevoir son environnement, qui doit entreprendre des actions. Donc on est dans un modèle perception-action, vous voyez, sensory-moteur. Donc on est toujours sur cette piste de l'embodiment, de l'incarnation, d'une vision donc, qui part du bas, hein, qui est... bottom up, hein, donc qui part du bas pour remonter vers les niveaux plus élevés. Et donc en fait le reste de la page décrit ces différents éléments et se termine en fait de manière assez, assez sommaire, vous verrez, dans les années 80-93, enfin il y a quelques références qui sont données au début des années 2000, mais en fait on reste un peu sur sa fin, parce que voilà, ils ne nous disent pas grand-chose de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, il y a une section qui s'intitule « La recherche en intelligence artificielle en France ». Et voilà, Wikipédia note lui-même « Cette recherche, cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue, comment faire ?» Bon, c'est le fonctionnement de Wikipédia hein, qui permet justement à chacun d'intervenir. Mais on voit qu'en fait, bon, on n'a pas une vision très... comment dire, on n'a pas une vision très actualisée de la situation. Et notamment, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est que cette page Wikipédia, à aucun moment, ou quasiment pas, ne mentionne l'apprentissage profond, le deep learning ou le machine learning. Alors même qu'elle en donne les prémices à travers les différentes utilisations, les différentes applications que j'ai mentionnées, hein, qu'il s'agisse de reconnaissance vocale, reconnaissance visuelle, traitement automatique du langage, les fonctions, les utilisations dans la santé, etc. Qu'elle met en avant beaucoup ce paradigme connexionniste embodied. Donc c'est très curieux parce que finalement l'intelligence artificielle via donc les réseaux de neurones convolutifs qui correspond à l'intelligence, à l'apprentissage profond, n'est pas du tout identifié dans cette page. Comme si finalement on n'avait pas reconnu qu'il y a là une vague absolument déterminante. Alors qui est très récente, hein, mais justement ça prouve que cette page elle est relativement pas actualisée, alors même que il me semble avoir vu qu'elle avait été consultée et actualisée pour la dernière fois très récemment en 2020 ou 2021. Alors qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que soit finalement le travail qui a été fait pour la construction de cette page et la manière dont les gens y ont coopéré n'a pas pris en considération cette dimension. Donc là, on a bien une dimension interprétative hein, du choix qui a été fait de ne pas identifier cette dernière vague de l'intelligence artificielle. Soit la page n'a pas été tout simplement actualisée pour des raisons factuelles. Hein. Mais ça semble quand même curieux. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de... Oui, le 19 janvier, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Oui, j'ai vu. Donc en fait, vous voyez, c'est un réseau très limité. Vous avez raison, Zakaria. C'est un réseau très limité de gens qui n'ont peut-être pas pris acte de la révolution qui est en train de se passer depuis une dizaine d'années. Puisqu'en réalité, deep learning, machine learning, c'est quelque chose qui est devenu vraiment très diffusé et très discuté depuis 2010, grosso modo. Hein, donc ça fait une dizaine d'années seulement. C'est très, très, très récent. Oui, vous avez raison Gary, il y a un certain nombre de choses qui sont mentionnées en 2012, mais c'est assez confus en fait, c'est relativement factuel, il n'y a pas tellement de vision, on a du mal à comprendre en fait ce qui est en jeu concernant le... il y a effectivement des noms qui sont mentionnés, par exemple il y a le nom d'un chercheur qui est mentionné, qui est aussi au cœur de l'article de Cardon qui commence par là d'ailleurs. Je recherche son nom à propos de l'intelligence artificielle en France. Yann Le Cun. Hein, Yann Le Cun. Yann Le Cun. Donc son nom est bien indiqué. Hein. Effectivement, c'est une des figures référentielles aujourd'hui en France, en tout cas. Pour le deep learning. Mais voyez, il n'est pas question du deep learning. En fait, on a simplement indiqué les noms sans véritablement définir une vision et rattacher en fait le deep learning à tout ce qui a été indiqué dans l'histoire de ces différentes vagues et de ces différents soubresauts en fait de l'intelligence artificielle. Donc voilà ce qu'on peut retenir de cette histoire telle qu'elle est racontée. Hein, donc le rapport à une utopie, à un rêve hein, qui est régulièrement ramené à la réalité, on retombe sur terre régulièrement, on se rend compte qu'on ne peut pas faire autant de choses qu'on croyait qu'on pouvait faire, donc une sorte de rêve absolu qui est sans cesse mis à mal. Une stimulation de ce rêve, je dirais, à chaque fois par une injection financière monumentale, et finalement l'argent qui commande en réalité les différentes vagues et les différents renversements pour le bonheur et pour le malheur des scientifiques. Donc une histoire en dents de scie, une évolution par strates, comme vous dites, Gary, tout à fait. Donc des vagues et donc des flux et des reflux qui sont commandés par les injections financières ou pas. Donc ça, c'est ce qui ressort comme une sorte de constat un peu sociologique et historique. Hein. La fin de l'histoire, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas de fin d'histoire, quoi. Enfin, on reste un peu sur sa fin. Qu'est-ce qui en ressort, en fin de compte, aujourd'hui ? Et donc, c'est là que l'article de Dominique Cardon devient intéressant, parce que justement, lui, il prend acte de la réalité très contemporaine du deep learning. Le titre de son article, évidemment, est éloquent, hein, l'invention des machines inductives et la controverse de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est le sous-titre. Et le titre, La revanche des neurones, hein, qui est un titre évidemment très vendeur. Hein. Donc je vais rentrer dans cette deuxième histoire maintenant, si vous voulez, pour à la fois faire le lien avec la première et vous montrer la différence et vous montrer ce que nous apporte cette deuxième histoire. Donc La revanche des neurones, c'est un titre éloquent, on peut s'arrêter un instant dessus, dans la mesure où ce titre est emblématique finalement de la posture qu'adoptent les auteurs de l'article, qui consiste à montrer finalement comment l'approche connexionniste s'est implantée et a pris le devant de la scène, alors même qu'elle avait été très tôt marginalisée et jugée hétérodoxe par le courant symbolique, hein, par l'approche symbolique. Donc l'approche symbolique, je répète, hein, c'est l'approche telle qu'elle a été mise en place, les machines symboliques telles qu'elles ont été mises en place par les fondateurs de l'intelligence artificielle, John McCarthy, Marvin Minsky notamment, donc dans les années 50. Donc avec cette idée d'un traitement symbolique de l'information qui soit autonome et qui soit autocohérent, donc la construction de machines purement formelles d'une part, et donc qui a mis de côté justement ce courant connexionniste qui à l'inverse cherchait à prendre en considération les données et à partir des données, c'est-à-dire en l'occurrence du vivant, des réseaux de neurones, mais considérés comme des données justement physiques, hein, et qui considéraient que c'était depuis cette base-là, eh bien, qu'on pouvait construire une machine qui fasse apparaître de la complexité sur la base de ces données élémentaires. Hein. Donc c'est deux processus tout à fait différents qui se concurrencent, qui se controversent, comme dit l'article. La controverse de l'intelligence artificielle. Le focus de l'article, c'est vraiment sur cette controverse entre les machines symboliques et les machines connexionnistes. C'est ça, l'invention des machines inductives et la controverse de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est les neurones qui prennent leur revanche, hein, c'est-à-dire qui reviennent au devant de la scène, qui, ayant été marginalisés et jugés hétérodoxes, eh bien, reviennent en force et s'avèrent être le modèle donc bio-inspiré, comme le dit Dominique Cardon dans son article, le modèle donc les réseaux de neurones, aujourd'hui nommés les réseaux de neurones convolutifs, hein, c'est-à-dire qui coopèrent et qui évoluent ensemble, hein, littéralement, donc qui s'agencent et qui se relient les uns aux autres pour construire de la complexité. Et donc c'est ce modèle-là, finalement, qui devient le modèle déterminant dans l'apprentissage profond. Donc c'est le sens de, c'est tout le sens de l'article. Alors c'est en ayant en tête finalement cette posture que dans la conférence que j'ai donnée le 30 novembre dernier, j'ai eu tendance à moi-même raconter cette histoire en prenant acte de ce retournement et en considérant qu'en fait, le connexionnisme, les machines connexionnistes, avaient supplanté les machines symboliques. Et vous avez peut-être vu, pour ceux ou celles qui étaient là, qu'à plusieurs reprises, donc Francis Rousseau, donc, qui est donc, le vice-recteur de l'université de Galatasaray et qui est par ailleurs chercheur en sciences et en intelligence artificielle, à plusieurs reprises, il est revenu sur ce diagnostic que j'avais fait en disant, en réalité, c'est plus complexe que cela, parce qu'en fait, le connexionnisme et le symbolisme, les machines connexionnistes et les machines symboliques, elles sont contemporaines. En tout cas, l'intelligence artificielle se construit dans cette discussion, dans cette co-construction. Et aujourd'hui, évidemment, on peut penser que le connexionnisme devient majeur du fait l'importance donc, des données qui sont à la base même de la mise en place des machines prédictives. Mais en réalité, la dimension symbolique, ou en tout cas l'approche symbolique, reste parallèlement déterminante. En tout cas, elle n'a pas du tout baissé les bras, elle est toujours en jeu, et finalement, on est plus dans une coopération aujourd'hui entre les deux approches. En tout cas, c'est ça, c'est la manière qu'il a eu, lui, de présenter, de moduler, en fait, ma présentation. À relire l'article de Dominique Cardon, finalement, je me rends compte que quand même ce que j'ai proposé répond en tout cas à l'interprétation de Dominique Cardon. C'est-à-dire que malgré tout, dans sa manière en tout cas à lui de raconter cette histoire, il accentue quand même fortement la domination du connexionnisme aujourd'hui par rapport au symbolisme. Donc c'est peut-être un enjeu de discussion, hein, faudrait peut-être revenir sur ce débat parce qu'au fond, peut-être que là, il y a quelque chose à creuser. Et à vérifier. Alors je voudrais en venir maintenant à l'article de Dominique Cardon, de manière plus précise encore, et je vais vous redonner quelques éléments, notamment qui se trouvent situés dans les 10 premières pages, peut-être pour vous mettre en route hein, dans la lecture. Alors je vois une remarque de Zacharia, il me semble que ça a à voir avec les langages de programmation propres à l'IA qui se sont développés à part. Oui, tout à fait. Il est possible qu'il y ait deux... Enfin, il y a des parallélismes, en tout cas, il y a des choses parallèles. Et d'une certaine manière, le terme même d'intelligence artificielle est un petit peu mis en question hein, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a rebaptisé, finalement, deep learning ou machine learning, ce qui était de l'ordre de l'intelligence artificielle. Aussi parce qu'on s'est rendu compte que les chercheurs en intelligence artificielle avaient justement été, il y a une expression de l'article Wikipédia qui dit, c'était de doux rêveurs, hein, donc ils pensaient qu'on pouvait tout faire, et en fait, d'une certaine manière, les gouvernements et les agences de recherche ont aussi coupé les vivres à ces doux rêveurs parce qu'ils voyaient bien que en fait, ça ne débouchait sur rien et c'était sans doute trop ambitieux. Et peut-être qu'avec le deep learning, on a quelque chose de plus réaliste, de plus pragmatique, qui permet justement plus d'applications qui, sur la base d'une base de données qui s'est amplifiée de manière incroyable, et qui du coup permet de construire des machines qui vont être beaucoup plus opérationnelles. Oui, tout à fait. Dans le domaine de la santé, les applications, vous avez raison, Benjamin, je ne connaissais pas là, cette dernière découverte, mais une synapse artificielle, effectivement, dans le domaine de la santé, on a des résultats absolument incroyables. Zacharia qui nous dit donc quand j'étais en école d'ingé, j'avais un projet en programmation de traduire un langage d'IA en langage Fortran, le tout premier langage de programmation le plus basique, et j'avais trouvé ça quasiment impossible. Et aujourd'hui, en fait, on voit bien que on a fait énormément de progrès sur ce terrain de langage automatisé, de traduction automatisée. Chercheurs du MIT pour rejoindre le cours. Alors, on va avoir une séance, hein, je vous ai dit, le 24 février, c'est pas un chercheur du MIT, mais Anastase j'ai oublié son nom, d'origine grecque, va venir nous parler justement, va vouloir nous montrer comment ça fonctionne concrètement, le deep learning. Hein, donc on aura une séance où on va être initié de l'intérieur. Alors, j'en viens maintenant à l'article de Dominique Cardon. Donc, je vous propose de vous donner quelques points de repère concernant les 10 premières pages de l'article. Et ensuite, je sauterai à la fin à un tableau qui est fait et qui résume assez bien à la page 210, qui fait une sorte de synthèse des différentes vagues et de l'avancée. Tout à fait, non, vous avez raison, Gary, le symbolisme n'est pas mort. Mais en même temps, les avancées incroyables du deep learning ont été essentiellement motivées par le modèle connexionniste. Et ensuite, évidemment, le modèle symbolique s'est greffé, s'est regreffé. Hein. Mais bon, on demandera plus d'informations à Francis Rousseau, parce que là, lui pourra nous dire plus précisément ce qu'il en est. Alors, quelques éléments concernant donc l'histoire que nous raconte Dominique Cardon. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, de la même manière que la page Wikipédia, il restitue ses différents moments. Lui-même évoque aussi ces moments, ces temps d'hibernation, et le rôle décisif de l'argent dans la mise en place et le financement des projets, des programmes de recherche. Donc ça, c'est un point commun entre les deux histoires qui sont racontées. Donc on peut se dire que voilà, ça donne une forme d'objectivation déjà au récit. Hein. Déjà deux récits convergents sur ce terrain-là. Ça fait ressortir les aléas aussi, hein, et les retournements brutaux d'un modèle à l'autre. Ce que Dominique Cardon fait ressortir de manière singulière, donc à la différence cette fois de la page Wikipédia, c'est une lecture qui est liée donc à la détermination, à la structuration des machines. Il nous donne des éléments quand même beaucoup plus précis sur la manière dont sont structurées ces machines. Et notamment... Donc, il nous fait, comment dire, il met en place donc la manière dont les réseaux de neurones profonds, donc une sorte de spécification des réseaux de neurones première manière, donc qui sont à la base du connexionnisme et de la cybernétique, hein, donc qui a mis en place ce modèle initialement. Donc, comment les réseaux de neurones profonds servent à la construction de ces machines? Et il décrit assez bien le passage donc d'une machine symbolique, c'est-à-dire hypothético-déductive, hein, qui part donc d'hypothèses formelles et qui procède donc ensuite en termes de résultats, en termes de conséquences, à des déductions qui sont donc elles aussi formelles, d'une machine hypothético-déductive à une machine dite inductive. Donc le terme ici intéressant, c'est le terme donc de machine inductive. Qui est aussi donc synonyme de machine prédictive, hein, machine inductive. Il y a trois termes qui sont utilisés par Cardon et qui sont synonymes. C'est machine inductive égale machine prédictive égale machine connexionniste. Et ça s'oppose, en tout cas dans le scénario qu'il nous raconte, ça s'oppose à machine symbolique égale machine hypothético-déductive. Je note hypothético-déductive. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est la structure de l'article. Hein. Et par exemple, vous pouvez retrouver ça à partir de la page 177, si vous regardez dans l'article, avec le sous-titre « Symbolique versus connexionnisme », hein, et qui est détaillé un peu plus donc, dans la manière dont, par exemple, la figure 1 de l'article, hein, qui montre bien comment, donc, dans une machine hypothético-déductive, on a donc des entrées, le input, le fameux input, hein, on rentre un certain nombre de choses, Là, c'est l'humain qui agit avec un certain nombre de règles et de modèles. On a la machine, ce qui est nommé par Dominique Cardon le calculateur. Et puis, ce qui sort à la fin, donc, ce sont un certain nombre de déductions, hein, donc de conséquences. Ça, c'est la machine hypothético-déductive. La machine inductive, c'est une machine qui va, de la même manière, entrer un certain nombre de données, donc il va y avoir de l'input, et donc l'humain ici intervient, il y a le calculateur, et le résultat, eh bien, c'est la construction d'un programme, une application qui inclut aussi l'humain. Hein, donc en fait, on a dans les machines hypothético-déductives, donc je vais mettre machine symbolique, hein, machine symbolique, on a donc l'humain au départ, la machine, le calculateur, mais l'humain au sens des règles, donc au sens de quelque chose de formel. Et à la fin, on a donc la déduction donc, de ces règles, donc qui est en vase clos, finalement, qui reste formel. C'est un peu simplifié, mais grosso modo, ça correspond à ça. Alors que les machines inductives, eh bien, elles mettent en scène donc de l'humain au sens des données, un programme qui met l'accent sur les données physiques. Ensuite, la machine donc, qui engrange tout cela et les résultats qui sont en fait le programme, c'est-à-dire en fait des applications humaines. Donc ces deux fonctionnements un peu enfin, opposés l'un à l'autre, en fait assez opposés, tout en ayant une structure commune. Donc on a des machines qui vont produire des prédictions, donc qui vont produire des programmes, donc qui vont donner des applications en engrangeant des données, donc selon un calcul inductif, et qui donc du coup servent de transition, hein, qui sont une sorte de sas où finalement, l'input et l'output sont commandés par quelque chose qui relève de l'humain, les données d'un côté, qui sont initiales mais qui sont physiques, et en aval, les programmes, mais qui en réalité correspondent à des applications humaines. Donc on peut ressaisir ça, c'est fait de manière extrêmement précise par Cardon. On peut ressaisir cela, donc c'est ce qu'il fait, j'essaie de retrouver. Voilà, à la page 80, 180, il nous fait une sorte de ressaisissement conceptuel que je trouve particulièrement intéressant concernant donc la structure d'une machine intelligente avec une configuration donc qui inclut le monde, un calculateur, donc la machine, calculateur et un horizon. Il nous dit ces trois finalement, cette configuration, eh bien, elle va avoir un sens différent si on a affaire à une machine symbolique ou si on a affaire à une machine connexionniste, c'est-à-dire inductive ici, prédictive. Dans la mesure où les machines prédictives, nous dit-il, eh bien, elles installent, je cite Cardon ici à la page 180, elles installent un calculateur sur un monde en lui conférant un horizon. C'est-à-dire qu'en fait, la machine prédictive, elle prend appui sur le monde, donc elle se base sur le monde, donc les données, et elle produit un horizon. Un horizon, quand il utilise le terme horizon, là c'est le terme qu'il utilise, qui est son terme à lui. Elle produit un horizon, c'est-à-dire en fait une prévision, un programme, des applications. Hein, horizon ici, ça veut dire ça. Ça veut dire programme, application, mais en tout cas quelque chose qui est directement utile à l'humain. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que les machines prédictives, ce sont des machines qui sont des sas encadrées par de l'humain. Encadré par le monde d'un côté, l'horizon de l'autre, les données d'un côté, les programmes utilisés par le utili enfin, utiles pour les humains de l'autre. Hein, donc on a d'une certaine manière une machine dont qui est une transition, hein, qui est une transition, qui n'est pas au centre, enfin qui est au centre, mais qui en fait sert à l'humain. Alors qu'en réalité, les machines symboliques, telles qu'il les décrit, eh bien, en fait, ce sont des machines qui ont leur finalement, qui font entrer le monde et l'horizon dans le calculateur. C'est-à-dire, en fait, qui donnent au calculateur la cohérence interne du fonctionnement auto-déterminant, si vous voulez. Donc, on est quasiment aux antipodes, hein, dans le primat qui est accordé à l'humain, au monde et aux données. Et en fait, tout l'article va, à partir de là, à partir de cette mise en place, hein, tout l'article va s'attacher à montrer justement ce changement de structure, ce changement fondamental de structure. En insistant, par exemple, à la page 283, sur, c'est une expression intéressante, sur le couplage étroit entre le monde et le calculateur. Donc je prends cette expression, couplage entre le monde et le calculateur. Donc c'est un intertitre, hein, qu'on trouve à la page 183 de l'article, donc qui est très intéressant parce qu'en fait il permet de montrer qu'en fait les machines prédictives sont fondées sur l'idée d'une régulation et d'aller-retour en feedback entre le monde et la machine et ce qui en suit. Hein. Donc on est dans une vision adaptative de l'intelligence, adaptative de l'intelligence donc au contexte qui est ici le monde et à l'horizon qui en est la résultante. Et en fait, ce qui est très, très intéressant, c'est de noter, et ça l'article le montre très bien, de noter qu'en réalité, en réinvestissant ce paradigme connexionniste, en réalité, les auteurs, donc les scientifiques qui sont, qui sont en charge de ce nouveau type de programme, par exemple en France, Yann Kuhn, hein, eh bien, reprennent en charge les débuts de l'intelligence artificielle, à savoir la cybernétique, la première cybernétique. Dont j'ai pas parlé, mais que aussi bien d'ailleurs la page Wikipédia que Cardon mobilise pour indiquer qu'en fait, au moment où naît l'intelligence artificielle en 56, eh bien, elle se sépare précisément du paradigme cybernétique qui est pourtant à sa source. Donc la cybernétique, notamment, hein, c'est le nom de la cybernétique, c'est Norbert Wiener. Donc c'est dans les années 1940-1950. Donc c'est en amont même de la naissance de l'intelligence artificielle en 56, donc à Dartmouth. Et donc la cybernétique, en fait, est donc la science de l'information, j'en avais parlé un petit peu déjà, cette nouvelle science de l'information, mais qui justement fonctionne sur des boucles de réajustement, des boucles d'homéostasie, hein, donc de régulation de l'information. Homéostasie. Je note ça, homéostasie, et donc de régulation de l'information. Et donc on retrouve ici avec le deep learning ce paradigme vous voyez, qui revient en force. Y compris par exemple, hein, très concrètement, concernant aujourd'hui les machines, ce qu'on appelle les machines autocorrectives, c'est-à-dire qui prennent acte de la situation. Et qui adapte le comportement en fonction des erreurs qui sont commises. Hein, donc qui créent une sorte des boucles de rétroaction et qui permettent donc de faire évoluer, hein, le système d'ajuster davantage finalement les compétences aux données qui sont proposées. Donc vous voyez, on est dans des interactions où les données sont sans cesse, les données, le contexte, le monde sont sans cesse utilisées pour affiner l'intelligence de la machine, pour optimiser, comme le dit Cardon à la page 184, pour optimiser le fonctionnement adaptatif du système qu'ils forment ensemble. Donc on a vraiment l'idée d'une co-construction du monde et du système intelligent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement au cœur du deep learning aujourd'hui, hein, et qui remonte donc à la cybernétique, donc à l'avant même intelligence artificielle, hein, donc aux conférences Macy, et qui ensuite va être déterminant dans les années 70 à 90, donc avec comment dire, le développement justement du connexionnisme et de l'embodiment. Hein. Donc là, bon, je reste dans l'article de Cardon encore un moment, simplement pour voilà, peut-être donc voilà, simplement pour bien identifier quand même l'histoire qu'il nous raconte, hein, c'est-à-dire en fait ce qu'il nous dit à la page 186, en prenant appui sur la frise chronologique, la figure 3 de la frise chronologique qu'il nous propose un peu en amont dans son article, à savoir à la page, vous irez regarder, à la page 181, il nous dit, comme le montre la frise chronologique, donc c'est la page 186, c'est l'approche symbolique qui va dominer la production scientifique en IA du début des années 60 jusqu'au début. Du milieu des années 60 jusqu'au début des années 90. Donc vous voyez, l'histoire qu'il nous raconte est un peu différente de l'histoire très chaotique qu'on voit dans la page Wikipédia, puisqu'en fait il nous dit, voilà, il y a eu d'abord la cybernétique, donc un projet fabuleux de mise en connexion des différentes sciences sous le registre de la science de l'information et des boucles de rétroaction, donc quelque chose qui prend appui sur le modèle de l'organisme vivant. Ensuite, donc McCarthy et ses collègues de Minsky, notamment, mettent en place une orthodoxie cognitiviste avec donc les machines symboliques, et le connexionnisme est jugé hétérodoxe et marginalisé. Donc là, on est justement au début, milieu des années, enfin, années 50, années 60. Ça domine le paysage jusque dans les années 90, et au début des années 90, un certain nombre de critiques émergent. Et on a un paradigme embodiment qui apparaît et le retour en force du connexionnisme. Et puis, ce paradigme va se trouver poursuivi finalement pendant les 30 années qui viennent jusqu'à donner, donc dans les 10 dernières années, le deep learning. Donc vous voyez, il nous raconte une histoire plus simple, on pourrait dire, avec des alternances, des allers-retours. Et en fait, il ne fait pas forcément droit finalement aux machines symboliques. Comme on pourrait le faire dans une autre histoire, hein, puisqu'il nous parle finalement d'une opposition, d'une controverse. Hein. Il nous dit même la naissance de l'intelligence artificielle est apparue comme un véritable front anti-inductif. Hein, je reprends son expression à la page 186, dans lequel la logique devait contrer les chimères de l'approche connexionniste, accusée de s'être refusée à définir un traitement de l'information indépendant des processus physiques, etc. Hein, donc un front anti-inductif, ça veut dire qu'il y a vraiment un combat de l'intelligence artificielle machine symbolique contre les machines dites connexionnistes. Donc inductif, c'est-à-dire aussi aujourd'hui prédictif. Donc on voit ici qu'en fait, Cardon nous raconte une autre histoire. Il nous raconte l'histoire d'une controverse. Il nous raconte un conflit. Il nous raconte une revanche. Vous voyez, dans le vocabulaire même qu'il utilise, on est sur le mode de la polémique. Hein, on est sur le mode de la polémique et on est sur le mode des oppositions. Alors, est-ce que ce monde est présenté comme absolu ou comme une base de données subjectives choisie par les développeurs? Donc ça, c'est une question de Zakaria. Et question de Benjamin, le symbolisme dispose davantage d'une approche critique. Si je peux essayer de répondre, donc Zakaria, ce monde... est-ce que de quel monde parlez-vous? Ce monde, c'est le monde des données. Hein, donc c'est finalement ce qui est disponible. Aussi bien le terme données, il faut l'entendre dans un sens très large. Hein, c'est données physiques, c'est-à-dire en réalité qu'est-ce qui nous est donné dans le monde en termes de perception, en termes de possibilités, qu'elles soient pratiques ou qu'elles soient cognitives d'ailleurs. Hein. On a vu que dans un certain moment l'histoire de l'intelligence artificielle, on avait essayé de réunir le maximum de données, hein, c'est-à-dire prendre appui sur tous les facteurs, tous les éléments disponibles chez les différents utilisateurs, par exemple. Hein. Donc réunir le maximum d'informations, le maximum d'éléments disponibles dans, voilà, aussi bien en termes cognitifs que pratiques. Donc c'est à la fois une base, je dirais pas que c'est une base de données subjective, c'est une base de données qui prend appui sur tout ce qui existe, tout ce dont on peut disposer, sachant qu'on est dans l'empirique, c'est-à-dire qu'en fait il n'est pas sûr du tout qu'on soit exhaustif. Donc on prend tout ce qu'on peut trouver et on essaye d'en faire quelque chose qui soit le plus... C'est pour ça que c'est inductif. Hein. La méthode inductive, c'est une méthode qui part du particulier et qui généralise. Donc on n'est pas dans quelque chose d'absolu de ce point de vue-là. Sinon, on aurait une sorte d'a priori formel de point de départ qui voudrait absolument... qui partirait d'une forme d'exhaustivité. Et concernant la question de Benjamin, vous précisez, critique dans le sens où il y aurait une dimension plus réflexive dans l'approche de l'IA, contrairement au connexionnisme. Alors, je ne sais pas si c'est une approche plus réflexive. Je dirais qu'en fait, l'approche symbolique a toujours été jugée beaucoup plus rigoureuse et solide, parce qu'elle repose sur un paradigme formel, parce qu'elle repose sur une cohérence logique. Donc la vérité de cette, entre guillemets, en termes de vérité, la vérité de cette approche est fondée sur des articulations logiques et formelles. Et donc à partir de là, on va dire, bah oui, il y a une visée universelle et une visée nécessaire, donc quelque chose de plus objectif, de plus solide. Alors qu'en fait, l'approche connexionniste, c'est une approche qui tient compte du monde. Donc en fait, philosophiquement, on va dire, c'est une approche plus empiriste. Et qui considère qu'en fait c'est et c'est une approche comme dit encore Cardon, je le reprends parce que je trouve l'expression très juste, bio-inspirée, c'est-à-dire qui part des organismes vivants et donc des organismes humains. Donc en ce sens, elle est peut-être selon un certain modèle de la science, elle est peut-être moins objective ou moins rigoureuse, mais d'un autre côté, elle a une justesse qui est liée à la prise en compte, justement, l'adaptation aux possibilités de l'humain. Donc je pense que c'est vraiment deux approches qui, philosophiquement, s'opposent comme s'opposent le formalisme logique et l'empirisme. Même si, évidemment, opposer les choses ainsi, c'est bien trop caricatural, dans la mesure où le formalisme logique, à lui tout seul, reste abstrait. Et une approche empiriste, si on la, n'est jamais alogique, c'est-à-dire qu'il y a toujours une logique interne à l'approche empiriste, que ce soit une logique justement d'ajustement, d'aller-retour, de bouclage, donc c'est une logique plus, enfin aujourd'hui on dirait c'est une logique de la complexité, c'est-à-dire c'est une logique qui prend en considération le fait que le monde est complexe et qu'on peut pas le réduire à une forme simple binaire, tout simplement. Si je peux répondre de manière un peu plus générale, il me semble qu'on est un peu dans ce genre d'opposition. En tout cas, Cardon nous raconte une opposition. Alors, le terrain de l'éthique, ça, par contre, on ne va pas y rentrer maintenant. Je pense qu'il y a, dans le connexionnisme, il y a une éthique qui est liée à la situation, donc qui est liée à l'humain directement. L'éthique des systèmes symboliques, c'est une éthique qui serait plus une éthique formelle, c'est-à-dire une éthique qui est fondée sur l'axiologie, hein, une théorie des valeurs, mais formelle, donc qui ne prend pas en considération au premier titre l'humain. Mais bon, ça c'est des enjeux qui aujourd'hui sont très importants dans le deep learning, puisqu'on parle de l'intelligence de confiance ou l'éthique, l'ethics by design. Donc toute la déontologie, et il y a des chartes éthiques, je pourrais vous envoyer un lien à ce propos, il y avait une conférence très intéressante récemment à l'EHESS là-dessus, donc je vous enverrai le lien. Oui, il y a une dimension déontologique, alors c'est une éthique de la profession, hein, une éthique des règles de fonctionnement, comment on s'y prend et comment on traite les utilisateurs en l'occurrence. Donc là, c'est une éthique plus pragmatique, je dirais, que l'éthique formelle. Mais bon, c'est une question un peu large, et c'est vrai que là, j'ai l'impression de la traiter de manière trop rapide. On pourrait y revenir la prochaine fois, si vous voulez. On pourra revenir là-dessus la prochaine fois. Je vous enverrai un lien concernant en tout cas un certain état de ces discussions concernant l'éthique de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et l'éthique du deep learning surtout. Bon, pour essayer de terminer sur ce point, en tout cas sur ces différentes histoires racontées, ce qui est évident, c'est qu'en tout cas Cardon adopte un fil narratif qui est un fil de la controverse, hein, donc un fil du polémos, et qu'il met en scène des oppositions, et c'est toujours intéressant évidemment, hein, la discussion, la disputatio, en philosophie c'est vraiment au centre de l'exercice critique également, mais du coup, vous voyez, il reconstitue une histoire qui peut-être demanderait à être affinée, justement en prenant en considération plus une complémentarité du paradigme connexionniste et du paradigme symbolique qu'une opposition frontale. Donc ça, ce serait une première réserve qu'on pourrait faire à l'histoire telle qu'elle est racontée par Dominique Cardon. Une autre réserve, sur un autre bord, ce serait de considérer qu'en fait, la manière dont il raconte l'histoire de l'intelligence artificielle, tout en faisant droit, évidemment, à travers le connexionnisme, à l'adaptation à la situation, au contexte, à la relation au monde, et en aval à la manière dont la machine est prédictive, c'est-à-dire donne des possibilités d'action à des humains, c'est-à-dire à des utilisateurs, donc tout en tenant compte, en encadrant, en montrant comment la machine prédictive, elle est encadrée par le monde en amont et en aval, donc elle est en ce sens incarnée, eh bien c'est très étonnant que tout ce vocabulaire, le monde, la perception, l'horizon, le couplage, tous ces termes qui sont utilisés et qui ont une résonance directement phénoménologique ne sont absolument pas référés à la phénoménologie. Donc c'est là évidemment que moi j'interviens avec l'histoire que je suis en train de vous raconter en insistant sur le fait que cet article, eh bien, il fait une sorte de coupe, une coupe sombre en fait, je dirais d'une autre façon, une coupe sombre sur la phénoménologie, et qu'il ne mentionne absolument pas la manière, même s'il parle un peu de la critique de Dreyfus, il en parle sur un mode assez radical et en ne faisant pas droit du tout, en n'identifiant pas du tout sa position à partir de la phénoménologie. Donc là, il y a quelque chose qui est zappé d'une certaine façon, hein, qui n'est pas du tout intégré. De même qu'il n'intègre pas non plus du tout l'importance du travail de Francisco Varela. Il mentionne par exemple, parmi les auteurs, il mentionne John Searle, on l'a déjà dit, il mentionne Daniel Handler, donc qui est aussi un auteur important, dans son article de 1990. Il mentionne Jean-Pierre Dupuis, je vous indique les références qui sont significatives dans son article, notamment un livre qui s'appelle « L'origine des sciences cognitives ». Et ce qui est très étonnant, il mentionne Dreyfus, bien sûr, et donc ce qui est très étonnant, c'est qu'il évoque Francisco Varela, mais ça n'apparaît pas dans sa bibliographie, et notamment il parle à la page 183 d'un couplage, hein, le fameux couplage que j'ai mentionné entre le monde et le calculateur. Or, ce terme de couplage, il faut quand même le noter, et c'est là que moi j'interviens avec l'histoire que moi je vous raconte. Ce terme de couplage, eh bien, c'est un terme qui a été inventé par Francisco Varela dans un livre qui s'appelle, en espagnol, puisque Francisco Varela est un auteur chilien, dans un livre qui s'intitule « El árbol del conocimiento ». « El árbol del conocimiento ». J'essaye de l'écrire. Voilà, un livre des années 70 qu'il a écrit avec Umberto Maturana, donc son maître, Umberto Maturana, Rana et Francisco Varela. Et dans ce livre, ce qui a donné lieu à d'autres ouvrages ensuite, évidemment, par Francisco Varela, donc il y a cette théorie de l'autopoïèse. Donc un terme que forgent ces deux auteurs, ces deux chercheurs chiliens dans les années 70. Et l'autopoïèse, eh bien, c'est justement, hein, si on le prend littéralement, c'est le processus de création donc d'un artefact, mais dans l'interaction co-construite avec l'environnement. Hein, donc il y a une relation de couplage, hein, c'est le terme de acoplamiento, le terme chilien, le terme espagnol, pardon, acoplamiento, acoplamiento, donc le couplage, hein, en anglais on va parler de coupling, qui définit justement quelque chose qui est beaucoup plus qu'une relation, qu'une corrélation entre le monde et la machine, entre le vivant entre l'organisme et l'environnement, mais quelque chose qui est une co-construction, hein, qui est une relation de co-génération, on pourrait dire, entre les deux. Hein, donc les deux se créent l'un l'autre, hein, de co-création. Donc ça va beaucoup plus loin, puisque ça engendre de la nouveauté, ça fait émerger quelque chose qui n'était pas prévu au départ, hein, c'est-à-dire qu'on part d'un certain état des lieux, et puis on développe, sur la base de deux termes, on développe une complexité, on développe quelque chose qui émerge, qui n'était pas donné au départ. Donc ça fait écho aux couples de force en physique qui sont toujours ensemble. Oui, tout à fait, on est exactement Zacharia, on est dans quelque chose qui est co-construit, l'un ne peut pas exister sans l'autre, donc il y a quelque chose qui relie les deux de manière extrême, c'est la relation qui prime sur les termes de ce point de vue-là, mais en plus de cela, on décrit un processus, c'est-à-dire on décrit quelque chose, on part d'une réalité par exemple avec ces deux termes, hein, le monde et le calculateur, et puis en fait la mise en relation de ces deux termes va engendrer une dimension autre, va engendrer quelque chose qui est irréductible, qu'on ne peut pas réduire aux deux termes, c'est-à-dire qui va être plus complexe, on engendre un niveau méta qui est plus complexe, et c'est ça le processus de l'émergence. Et en réalité, toute cette théorie, qui est une théorie forgée par Francisco Varela et Umberto Maturana dans les années 70, est complètement parallèle en fait de l'émergence en fait progressive, hein, de justement du connexionnisme et donc d'une vision bio-inspirée dont parle Dominique Cardon. Donc en fait c'est étonnant que dans son article il zappe aussi bien l'implication de la phénoménologie que l'implication d'une théorie comme celle de Francisco Varela et d'Umberto Maturana, qui met au premier plan justement l'incarnation, hein, et la dimension donc du monde comme étant un partenaire en réalité de la construction de la machine en l'occurrence. Donc ça c'est la troisième histoire en fait que je vous raconterai donc plus en détail encore la prochaine fois, hein, parce que je vois que là on est arrivé donc à la fin de notre cours. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller regarder, pour terminer, aller regarder à la page 210 de l'article, où vous allez trouver un tableau qui est très bien fait, donc dans cet article, où justement on voit bien apparaître les quatre âges, hein, ce que Dominique Cardon appelle les quatre âges des machines prédictives. Les quatre âges des machines prédictives. Et où il nous décrit justement, il ressaisit de manière extrêmement intéressante, très synthétique, ce qu'il en est de la machine, du monde, du calculateur et de l'horizon, en déclinant en fait la cybernétique, l'IA symbolique, les systèmes experts et le deep learning. Et en nous montrant qu'en fait comment, en partant de la cybernétique, qu'il place sous le label du connexionnisme, donc justement de cette inclusion, cette implication du monde, eh bien, on passe par l'IA symbolique, les systèmes experts qui restent sur le modèle symbolique, et le deep learning qui réengage finalement la vision connexionniste. Donc je vous propose de regarder plus en détail ce tableau, et effectivement, tous les schémas et toutes les figures qui sont proposées dans l'article de manière générale, vous avez raison Gary, sont extrêmement éloquentes. Alors bien sûr pour des raisons de temps, ben, malheureusement on ne peut pas développer davantage mais sur ce terrain, mais enfin allez regarder, franchement ça permet ça donne beaucoup plus d'informations que ce que j'ai pu vous dire. Ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de vous montrer un petit peu voilà, quels étaient les attendus de cet article, en quoi il est décisif pour ce que l'on fait. Et en même temps, comment il raconte quand même une histoire, hein, qui est une certaine interprétation, mais avec un cadrage qui est particulièrement intéressant, mais quels sont aussi ses manques par rapport à ce que nous, on va faire. Hein, c'est aussi ce qui peut légitimer la raison de ce séminaire, c'est-à-dire le fait qu'on va mettre l'accent beaucoup sur une approche incarnée, donc dont la base est le travail de Francisco Varela, et plus largement sur la phénoménologie et aussi la microphénoménologie. Voilà, j'espère que ce cours vous a intéressé. C'était un petit peu dense, peut-être. Donc, j'ai pas eu le temps de vous transmettre. On n'a pas pu faire droit au texte de Dreyfus que je voulais vous proposer et commenter avec vous. Mais on le verra donc la semaine prochaine. On commencera par là, puisqu'on va rentrer la semaine prochaine dans une troisième étape qui sera justement l'étape de la mise en. De l'implication de la phénoménologie. Non seulement l'implication du monde, comme on l'a déjà vu, mais l'implication de la phénoménologie, donc à travers donc le, je reprends mes notes, donc à travers les figures justement, principalement de Dreyfus et de Varela. Hein, donc ça va être les deux auteurs qu'on va regarder de plus près la semaine prochaine. Et donc on regardera notamment dans l'article, dans le livre de Dreyfus, on regardera la conclusion de son livre. Qui s'intitule justement « The Scope and Limits of Artificial Reason ». Donc on verra peut-être que, éventuellement, Nicole, si vous avez l'ouvrage, en dehors même de l'article du chapitre 7, éventuellement, si vous pouviez, ce qui serait excellent, ce serait que vous puissiez me transférer aussi le texte français des pages correspondant en anglais aux pages 197 à 202. Ce serait excellent parce que là, je les ai moi, en traduction Google Trad, ce qui est évidemment assez chaotique, même si c'est intéressant pour voir comment on traduit un texte en traduction automatisée, comme on l'a dit, et les limites que ça a. Mais ce serait peut-être pas mal. Enfin, si éventuellement, d'ici la semaine prochaine, vous pouvez m'envoyer cela. Comme ça, je transmettrai le texte à tout le monde, le texte anglais et le texte français. Et on aura cette base de travail et vous l'aurez lu avant. Oui, non seulement le texte français, Nicole, en fait, parce que le texte en anglais, je l'ai récupéré sur Internet, en fait. Donc ça, je l'ai. C'est juste que le texte français, je ne l'ai pas. Et du coup, je l'avais mouliné en français à travers une traduction automatisée, mais... Évidemment, il y a des tas de défauts. Donc, mais qu'on en profitera pour examiner, justement. Ce sera un peu notre travail en acte de la portée et des limites du deep learning, justement. donc, voilà. Donc je vous transmettrai ce texte, cet extrait avant la séance de jeudi prochain, de façon à ce que vous puissiez en prendre connaissance. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi pour vos intentions de validation. Voilà, j'espère que c'était intéressant. C'est un peu frustrant de voir vous laisser comme ça sans retour. Mais je vous dis à la semaine prochaine et je mets cette séance de cours en audio, je le mets sur le site de l'ERIAC également. Voilà, je coupe l'enregistrement.